en les bouddhas dharma et sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Nous avons abordé la nature de l'esprit. Nous avons vu les voiles qui recouvrent et masquent la nature de l'esprit. Nous allons maintenant aborder l'illusion. Ce qu'est l'illusion, comment elle se constitue. L'illusion de la conscience duelle, dualiste, est produite par les tendances, les propensions, les fabrications du karma, de l'activité. Dans le chapitre intitulé « Le jeu de l'illusion », il est un exergue qui dit « Le samsara, c'est-à-dire les différents états de la conscience, est fait par le karma. Il en est une projection. La conscience est projection, fabrication des propensions et tendances karmiques. Les êtres sont faits par le karma. Il est leur cause et il les différencie. » C'est une citation du Mahakaruna Pundarika Sutra. Vajradhara Kalorimboche nous dit « L'esprit est le fondement de tout, de l'éveil comme de l'illusion. » L'esprit comme fondement universel, l'esprit expérience, la cognition qu'est l'esprit expérience est le fondement de tout, aussi bien dans l'illusion que dans l'éveil. En tant que fondement de l'éveil, il est l'intelligence primordiale fondamentale. L'intelligence primordiale fondamentale. Le kunshi yeshe, la gnose fondamentale. L'intelligence première, l'intelligence préconceptuelle, l'intelligence réflexive qui se connaît en elle-même et qui est fondamentale, celle du fond, elle est première, initiale. Et cette intelligence primordiale fondamentale est la nature de Bouddha, la nature de l'esprit, dotée des trois qualités que nous avons vues. Recouverte des voiles, des quatre voiles que nous avons abordé au chapitre précédent, cette intelligence primordiale fondamentale devient la conscience fondamentale, le kunshi yeshe, pardon, le kunshi namshe. Kunshi yeshe, c'est l'intelligence fondamentale, alayajnana, et voilé, cette alayajnana, cette conscience, cette intelligence, pardon, première devient la conscience fondamentale, alaya vijnana. Alaya vijnana, conscience fondamentale, qui est la base de toutes les illusions que sont les aspects variés de l'existence cyclique, les aspects variés de la conscience duelle, le samsara. La conscience fondamentale, l'alaya vijnana, pourrait être comparée à un terrain qui serait le réceptacle d'empreintes ou de graines laissées par nos actes. Alors, cette conscience fondamentale, qui a aussi été nommée conscience de tréfonds ou même certaines fois store consciousness, la conscience magasin, est celle qui emmagasine, qui est le réceptacle de toutes les graines karmiques, de toutes ces propensions. Une fois semées, ces graines subsistent dans le terrain de la conscience fondamentale jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour leur germination et leur mûrissement. Elles actualisent alors leur potentialité en produisant les plantes et les fruits que sont les diverses expériences du samsara. Donc, le terrain contient des potentialités latentes qui viennent d'empreintes extérieures comparées à ces graines, graines qui vont germer et qui vont produire une plante et qui vont produire un fruit lorsque les conditions sont réunies pour leur germination et leur développement. Les traces laissées dans la conscience fondamentale par un acte sont ainsi des causes d'où résulte, dès que les circonstances favorables se présentent, un état particulier de conscience individuelle avec des expériences qui lui sont spécifiques. C'est de la conscience fondamentale, avec ses empreintes, ses germes, ses graines, vont se développer, vont émerger les consciences individuelles. Globalement, l'ensemble des empreintes laissées par les actes du passé dans la conscience fondamentale conditionne tous les états et toutes les expériences de la conscience individuelle. C'est-à-dire finalement tout ce que nous sommes et tout ce que nous expérimentons. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous expérimentons est contenu dans notre conscience et notre conscience. L'enchaînement des différentes étapes de ce processus, depuis les causes, les actes initiaux jusqu'à leurs conséquences, les expériences présentes et futures, est nommé karma ou causalité des actes. Alors ici, nous avons une définition de ce qu'est karma. C'est important, d'autant que le terme est souvent mal compris. Le karma est la causalité des actes, l'enchaînement des causes et des conséquences de l'activité, depuis un acte initial jusqu'à sa conséquence. Donc, le déroulement de cette causalité, le déroulement de cette activité dans la relation cause-conséquence est ce que l'on nomme karma. Karma est un mot sanskrit qui signifie littéralement activité conditionnée. Cette notion d'activité étant ici entendue dans tout son déploiement, depuis la cause jusqu'à la conséquence d'un acte. Le karma est donc l'activité comprise comme enchaînement des causes et des conséquences des actes. Nous allons voir maintenant comment se constitue le samsara. Samsara, le mot sanskrit, se dit en tibétain « korwa », ce qui a le sens de « cycle ». Et le samsara est le cycle de la conscience ou la conscience dans sa manifestation ou la conscience dans son déploiement cyclique. Déploiement cyclique, manifestation cyclique induite et conditionnée par le karma. Le karma, qui est les empreintes de nos actes, conditionne l'esprit, qui expérimente, en fonction de celui-ci, diverses illusions constituant la variété des individualités et des environnements. En d'autres termes, la conscience et ses différentes expériences. Donc, les empreintes karmiques latentes vont amener, induire dans la saisie de la conscience et aussi amener dans celle-ci ses caractéristiques en termes de tonalité, d'intensité. La conscience est comme une polarisation sujet-objet induite par les empreintes karmiques, les propensions des empreintes karmiques. Polarisation qui se structure en projection et introjection, si l'on peut dire. Projection d'objet, introjection du sujet. Les différents types de conscience, avec toute leur joie et leur peine, sont ainsi des apparences illusoires manifestées par le pouvoir du karma. Toutes leurs catégories sont regroupées en les six mondes. Donc, les six mondes de la conscience qui sont des états de conscience plus ou moins polarisés, plus ou moins duels, allant des plus duels qui sont infernaux jusqu'aux moins polarisés et les moins duels qui sont divins. Donc, différents niveaux de polarisation plus ou moins intenses et aussi avec des tonalités émotionnelles, passionnelles qui correspondent aux cinq grands types de passions. Les six mondes ou six classes d'êtres, six classes de vivants regroupent l'ensemble des états dans lesquels la conscience peut transmigrer, laquelle la conscience peut évoluer, se développer, se manifester. Il constitue l'ensemble du samsara, terme qui signifie littéralement l'existence cyclique, le cycle des existences conditionnées ou encore la ronde des naissances. On dit aussi, même certaines fois, la ronde de la vie. Il est ainsi nommé parce que la conscience conditionnée par son karma y transmigre perpétuellement. La conscience continue en cycle, manifestant et y disparaissant comme une pulsation. De temps en temps, de temps à autre, par le pouvoir d'une influence positive ou d'un karma positif, la conscience prend naissance en un état supérieur, supérieur au sens d'heureux. Puis, sous l'emprise d'une influence négative ou d'un karma négatif, elle prend naissance en un état inférieur, douloureux. Cette ronde des naissances tourne continuellement, conduisant la conscience tantôt dans un état supérieur, tantôt en un état inférieur, suivant la qualité ou le type de karma qu'il a induit. Cette alternance ininterrompue ne s'achève qu'avec la libération, l'épuisement du karma, qui est la sortie de l'existence conditionnée. C'est alors la fin du samsara, l'état de Bouddha. Aussi longtemps que cette libération n'a pas été obtenue, la conscience se transmigre dans les différents mondes du samsara et nous les avons ainsi tous traversés. Aujourd'hui, nous avons la conscience humaine. Nous avons la condition humaine. Ultérieurement, nous serons amenés à renaître dans l'un ou l'autre de ces états de conscience, de distance. Ce qui transmigre ainsi d'une existence à une autre est la conscience conditionnée par son karma, lequel définit son bonheur, sa souffrance ou ses aptitudes. Ce que nous nommons aujourd'hui les divers états dans lesquels nous sommes passés et dans lesquels nous passerons, ce que nous sommes aujourd'hui, les divers états dans lesquels nous sommes passés et dans lesquels nous passerons, tous résultent du karma qui conditionne les projections de l'esprit et modèle ainsi ses illusions. Alors, une question importante est karma et liberté. Dans le fonctionnement du karma, tel que nous venons de le décrire, quelle est la part de liberté et de libre arbitre que nous avons? Dans la perspective que nous venons d'évoquer, un karma positif est tel dans la mesure où il est cause d'états d'existence heureux et rapproche de la délivrance, alors qu'inversement, un karma négatif est tel parce qu'il induit des états d'existence douloureux et qu'il éloigne de la libération. Il est très important de bien comprendre que si expérience et acte sont ainsi conditionnés par le karma, nous jouissons toutefois d'une certaine liberté qui, dans des proportions variables, est présente à chaque instant. Nous nous trouvons à tout moment à la croisée de deux chemins. Le premier va vers le bonheur et l'éveil, le second va vers le malheur et les états d'existence infortunés. Nous sommes continuellement en face d'une alternative. Le choix judicieux génère un karma favorable à une évolution heureuse, alors que le mauvais karma produit et cause d'un devenir malheureux. Le choix nous appartient, mais les conséquences sont inéluctables. Nous sommes dans chaque situation, à chaque instant, dans un état qui participe d'une double nature, de gnose et de conscience, d'expérience première et d'expérience duelle, où nous vivons dans la conscience duelle sur fond d'expérience première. Et suivant l'intensité du karma, nous sommes plus ou moins dans les illusions et les fixations de la conscience, où nous sommes plus ou moins ouverts dans la présence immédiate de la gnose. Et c'est ce qui fait aussi que nous avons à chaque instant plus ou moins de conditionnement, plus ou moins de liberté. Mais nous avons toujours à chaque instant une part de liberté. Et c'est là que se situe notre responsabilité, le fait que nous soyons ainsi à la croisée de deux chemins, et nous pouvons utiliser cette part de liberté pour faire le bon choix, pour aller dans la bonne direction. Et si nous ne le faisons pas, nous allons par contre dans la mauvaise. Alors, mais nous avons plus ou moins de liberté. Certaines fois, on peut en avoir beaucoup, certaines fois, on peut en avoir très peu. Mais cette liberté est possible parce qu'au sein du samsara, en dépit de ses conditionnements, il subsiste une part d'intelligence immédiate et d'expérience authentique. Notre esprit et ses expériences participent à la fois des conditionnements de l'ignorance et de la liberté de l'intelligence immédiate. C'est ce que j'exposais. De l'ignorance vient l'appréhension dualiste en termes de sujet et d'objet, constitutive de la conscience individuelle, égotique, qui manifeste les différentes passions, alors que du côté de l'intelligence immédiate apparaissent les qualités positives non égotiques. Et qualités positives non égotiques qui sont aussi des qualités éveillées et d'éveil. C'est de ces passions comme de ces qualités positives que procèdent respectivement le karma négatif et le karma positif. L'activité, négative et l'activité positive. Le karma positif découle ainsi des dispositions d'esprit vertueuses, telles que l'amour, la compassion, la bienveillance, l'altruisme, les désirs modestes, le contentement, alors que le karma négatif provient des dispositions d'esprit non vertueuses, c'est-à-dire des attitudes égotiques avec leurs six principales passions, la colère, l'avidité, la stupidité, le désir d'attachement, la jalousie et l'orgueil. Activités positives qui vont dans le sens, qui procèdent et qui vont dans le sens de la présence, de la non-saisie et de la non-dualité, et négative au sens où elles procèdent et vont dans le sens de la saisie, de la dualité et de ses passions. Il existe encore un troisième type de karma. Le karma dit d'immobilité. Donc nous avons le karma positif, le karma négatif et le karma d'immobilité. Il est produit dans certains types de méditation qui stabilisent l'esprit et le rendent équanime. Les résultats de ce type de karma sont des naissances en des états de conscience caractérisés par une stabilité de l'esprit. Ce sont des états de conscience propres aux états divins. Donc, ce karma dit d'immobilité est une sorte de karma de la méditation, de certains types de méditation, qui développe le repos de l'esprit, la stabilité de l'esprit, mais stabilité, repos, et même avec des expériences relativement positives, mais qui sont encore des états de conscience conditionnés et en ce sens des états de conscience divin ayant le sens ici d'heureux, d'ouvert, de clair et lucide, mais encore dans le samsara, encore dans la conscience duelle. Globalement, tout ce qui existe dans le samsara est engendré par ces trois types de karma souillés. Dire qu'ils sont souillés signifie qu'ils consistent en des activités dualistes impliquant la distinction d'un sujet, d'un objet et d'un acte. Ces karmas sont en fait toutes les activités, tous les états de la conscience habituelle, toutes les activités, tous les états de la conscience individuelle. Parmi les différents types de karma, on distingue encore des karmas inducteurs et des karmas complémentaires. Le karma inducteur est celui qui, comme son nom l'indique, induit un état d'existence, induit un état de conscience tel qu'il soit. Le karma complémentaire définit au sein de cet état les modalités particulières à différents vivants. Il peut y avoir un karma inducteur de la conscience humaine, par exemple, et au sein de cet état, y avoir différents karmas complémentaires qui vont faire toutes les variétés, toute la diversité des consciences et des expériences humaines. Le karma complémentaire vient compléter la détermination de base donnée par le karma inducteur. Leur combinaison fait que si le karma inducteur d'un mode d'existence est positif et si le karma complémentaire qui en complète les particularités négatives, la naissance sera prise dans un état de conscience supérieur, mais avec en celui-ci de mauvaises conditions d'existence. Par exemple, nous prendrions une naissance humaine, mais en celle-ci, nous serions pauvres, nous aurions une mentalité de pauvreté. Inversement, un karma inducteur négatif associé à un karma complémentaire positif amènerait à prendre une naissance dans un état d'existence inférieur en lequel nous jouirions de circonstances favorables. Par exemple, nous prendrions une naissance animale, comme certains animaux domestiques qui, en Occident, ont des conditions d'existence très privilégiées. Alors, il existe aussi des karmas collectifs et individuels. Les êtres vivant dans un même état d'existence ont tous développé des karmas concordants, de sorte que le monde leur apparaît de façon similaire. Donc, le karma collectif donne une expérience conforme à tous ceux qui ont ce même karma collectif, des apparences et une apparence du monde et de son expérience similaire. Ce karma qui leur est commun est dit collectif, producteur d'apparences communes. Néanmoins, les différences de lieu, d'apparence corporelle, de bonheur et de peine spécifiques à chaque être sont la manifestation d'un karma qui est propre à chacun d'eux. Il est dit individuel, producteur d'expériences spécifiques. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Il y a l'expérience collective et commune, et il y a au sein de celle-ci toutes les expériences particulières, individuelles, propres à chacun. Des combinaisons des différents karmas naissent les souffrances des trois classes d'êtres inférieurs et les bonheurs des trois classes d'êtres supérieurs. Ensemble, elles constituent toutes les conditions fluctuantes et variées causées par les karmas mélangés. D'actes différents apparaissent donc des effets dissemblables. La variété des karmas fait la variété des êtres et des états d'existence. Ainsi, le karma est-il le créateur du samsara? Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants, en la réalité absolue. Om Aum.